Désolé la louange, j'ai un peu déplacé vos trucs, il faudra que vous retrouviez vos micros pour avoir un peu de place, pour être à l'aise. Et ce matin, notre méditation de la parole va se faire à partir d'un psaume, le psaume 4 plus exactement. Alors, on ne va pas le lire de suite, je vais juste lire la première phrase. « Au chef de cœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. » Donc ce psaume est attribué à David, ce qui veut dire qu'il a été écrit il y a à peu près 3000 ans. C'est l'époque où régnait David. Et malgré la distance dans le temps, vous allez voir qu'on va le lire, et la distance culturelle qui nous dépasse de David et la société israélite du Moyen-Orient ancien, ce texte continue à nous parler. Pourquoi ? Parce que David va exprimer dans cette prière chantée des sentiments, des émotions. Il va parler de détresse, de joie, de besoin de paix, de sécurité, des questions, où trouver le bonheur, qui font écho à notre cœur. C'est toujours les mêmes questions qu'on se pose. Et le Saint-Esprit qui a inspiré les psaumes est aussi notre Dieu créateur qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et il a guidé David dans le psaume 4, dans les questions à poser, vous verrez la manière dont elles sont posées, et dans les réponses. De plus, cette prière de David, même si elle relate ses états d'âme et ses questions devant Dieu, vous verrez que le début et la fin du psaume sont à la première personne, elle a été mise à écrit pour être chantée avec des instruments, vous rappelez, avec des instruments à cordes, dans le premier verset, par un cœur, ce qui signifie qu'elle a été chantée par le cœur des Lévites lors de l'adoration au temple. David nous fait partager son expérience et son cheminement spirituel. Il le partage à l'Israël ancien, premièrement. Le peuple était au bénéfice de son témoignage, du témoignage de sa communion avec Dieu. Il pouvait chanter ça et s'y retrouver. Et nous le sommes aussi au bénéfice de ce partage par le fait que le Seigneur a mis par écrit ce psaume dans sa parole et que le Saint-Esprit continue à le rendre vivant pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, lisons ce psaume, le psaume 4. Au chef de cœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Ça passe, Cédric, ou non ? Ah, super, merci. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Quand je t'appelle à l'aide, ou quand je crie, selon les versions, lorsque je suis dans la détresse, dans l'angoisse, selon les versions, donc on voit avec ces quand, avec ces lorsque, que David a connu des moments. Et si vous êtes un peu familier avec les psaumes, vous savez que ces situations sont assez fréquentes dans différents psaumes, et pas que dans les psaumes, dans les prophètes aussi, où il est dans la détresse, dans l'angoisse, où il a besoin d'aide. Et pourtant, si on va au verset 4, sachez-le bien, Dieu s'est choisi un homme qui s'attache à lui et il m'entend que je l'appelle. Donc, on voit que David a pourtant été choisi par Dieu, qui s'attache à lui, qu'il est fidèle à l'Éternel. Le fait que Dieu l'ait choisi ne lui épargne pas les moments difficiles. Ici, la détresse, l'opposition, qui semble être de la médisance, qui semble venir peut-être de médisance ou de calomnie. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? En tout cas, ce qu'il vit le plonge dans la détresse, l'angoisse, et il en appelle à Dieu. Dans la foi, on peut être fidèle et passer par des épreuves comme ça. Ce n'est pas du tout opposé. La foi, c'est la confiance en Dieu. Quelqu'un vous dit « fais-moi confiance », c'est que naturellement, tous nos sens nous disent « c'est pas sûr, c'est dangereux, je n'y comprends rien ». Et là, quelqu'un supposé de confiance nous dit « n'aie pas peur, je connais le domaine ». On le vit tous les jours, ça. Vous avez un problème avec votre voiture, si vous n'êtes pas mécanicien, bien, vous êtes obligé de vous en remettre au mécanicien. Vous avez un problème avec votre ordinateur, si vous n'êtes pas informaticien, vous allez vous en remettre. Vous avez un problème médical, vous allez vous en remettre entre les mains d'un médecin. Je me rappelle, avec Magali, il y a quelques années, on était allé faire un canyoning dans les Cévennes, dans les gorges du Tapoul. Et puis, donc, on prend rendez-vous avec le guide, on y va. Et puis, le lendemain, on repasse à l'office du tourisme de Meyrueis. Ils nous disent, alors, vous êtes allé où? On est allé dans les gorges du Tapoul. Puis, c'est Magali qui m'a regardé, la dame, elle a ouvert. Elle dit, dans les gorges du Tapoul? Mais il y a un mort ou deux chaque été, là-bas. Pour de vrai, hein? Il y a des accidents fréquemment. Et en fait, ce guide-là, on y a dit, nous, on n'est quand même pas plus sportifs que ça, quoi. On y va. Puis il nous a dit, vous inquiétez pas, je connais par cœur. Et puis il nous a mis en confiance à un moment, il nous dit, hop, là, vous allez voir, ça va tourner. Et puis le courant va vous faire tourner, vous inquiétez pas, laissez-vous guider par le courant. Là, vous pouvez sauter. Puis on s'est rendu compte que le gars, il connaissait le parcours par cœur. Et donc, il nous a mis en confiance. Et on a pu faire ce parcours où des gens, des fois, ont des accidents graves parce qu'ils y vont sans connaître. On a mis notre confiance en quelqu'un qui lui savait, qui lui connaissait. Et c'est le cas de David avec son Dieu. Dans l'âge présent, même le fidèle, celui choisi par Dieu, et nous sommes choisis par Dieu, aura à traverser des épreuves au milieu desquelles il exercera sa foi en Dieu, où il lui fera confiance. C'est normal, c'est même les moments où on va mettre notre confiance en Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tout va bien, quand le soleil brille, quand on a le moral, quand toutes nos circonstances favorables. Oui, le Seigneur est bon, mais c'est plus facile de le dire presque. C'est dans ces épreuves-là qu'on va expérimenter que la parole de Dieu est vraie. Ça fait partie de notre vie sur cette terre. Apocalypse 21, versets 3 et 4, nous dit, en parlant de l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, lorsque Jésus reviendra, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois, c'est-à-dire maintenant pour nous, ça parle à partir du futur, a définitivement disparu. Nous sommes dans cet autrefois, le temps présent où nous expérimentons les larmes que le Seigneur va essuyer, les plaintes, les souffrances, parfois la mort et le deuil. Cela peut faire partie de notre expérience humaine. La joie, la paix, la sécurité ne sont pas nommées dans l'Apocalypse car elles continueront. Elles seront même entières, pleines, à un niveau de plénitude que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais ce n'est pas cela qui nous pose problème actuellement. Ce qui pose problème à David, c'est leur absence, c'est la détresse, c'est l'angoisse. Et la foi n'est pas une assurance tout risque contre les difficultés de la vie, une promesse que toute vicissitude nous sera épargnée. Elle est confiance en Dieu, malgré et dans les difficultés. Et donc, David va crier à son Dieu. Les psaumes et d'autres passages de la Bible nous encouragent, nous autorise à crier à Dieu, à appeler à l'aide dans nos détresses. Vous vivez un temps de souffrance, sachez que Dieu vous autorise à pleurer, à épancher votre cœur devant lui. Il a même inspiré des psaumes pour cela, pour vous, pour nous qui traversons des difficultés. Ne soyez pas culpabilisés si vous passez un temps de souffrance, d'être dans la douleur. C'est normal. Et Dieu a prévu que dans ces moments-là, nous puissions épancher notre cœur devant lui. Prenez un psaume, lisez-le à haute voix. Priez avec des frères et sœurs. Si vous êtes, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si vous êtes dans la joie, louez le Seigneur. Si vous êtes dans la souffrance, priez. C'est Jacques qui dit ça. La Bible a prévu cela. C'est normal dans le temps présent. Mais à quel Dieu David va-t-il faire appel ? On a vu qu'on pouvait avoir des temps de souffrance et Dieu, David va faire appel à Dieu. À quel Dieu? Le Dieu de David est un Dieu qui lui rend justice. On va relire les deux premiers versets, le 2 et le 3. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Donc Dieu qui le délivre lorsqu'il est dans la détresse, qui le met au large quand il est dans l'angoisse. Dans certaines versions, l'angoisse nous enserre. Là, Dieu va nous mettre au large dans la difficulté. C'est-à-dire qu'il va agir et desserrer les liens de cette angoisse. En creux, dans cet appel au secours de David, Dieu apparaît comme un Dieu puissant, il délivre, et compatissant, il n'est pas insensible. Imaginez un Dieu compatissant, ah, tu es dans la détresse, tu es dans l'épreuve, mais qui peut rien pour nous. bon, mais il manquerait quelque chose. Ou un Dieu puissant, mais un peu un Dieu comme dans certaines mythologies nordiques, ou des dieux puissants, mais insensibles au sort des humains. Là, il y a les deux en Dieu. Il y a à la fois la puissance délivrée, et puis il y a l'envie de délivrer, la compassion. Quand vous regardez Jésus, relisez Jésus dans les évangiles, vous verrez combien de fois il est ému de compassion, combien de fois il est pris aux entrailles, devant les gens malades, devant la foule qui sont complètement perdus spirituellement. Il est ému aux entrailles et il agit. Un Dieu préoccupé par celui qui vit l'injustice, un Dieu vivant à qui David va exprimer son appel au secours, sa détresse. David fait aussi appel à sa grâce et à Satan. Il s'attend à ce que Dieu réponde et écoute sa prière. Sinon, pourquoi prier ? Si nous prions, quelque part, c'est que nous croyons que Dieu peut répondre. Si nous cherchons Dieu, c'est que nous croyons qu'il va répondre. Donc toute prière a comme base la foi. Il ne va pas voir ailleurs. Et même au verset 4, il affirme « Il m'entend quand je l'appelle. Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi, un homme qui s'attache à lui. Et il m'entend quand je l'appelle. » Dans tout ce passage, c'est à Dieu qu'il parle, qu'il crie dans ce psaume. Hein. Il ne se replie pas sur lui-même, il exprime sa souffrance à Dieu. Et ce n'est pas un manque de foi, c'est au contraire être persuadé que Dieu va l'entendre, qu'il va écouter sa prière et qu'il va agir. Le comment ne m'appartient pas, mais je sais qu'il va agir. Crier et appeler à Dieu, c'est garder une relation avec lui. C'est à Dieu qu'il s'adresse au sein de sa détresse. Si vous lisez le livre de Job, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs passages où Job exprime des choses qui peuvent presque nous choquer, qui semblent dures dans sa souffrance. Mais c'est à Dieu qu'il les exprime. Il les exprime à Dieu, il garde une relation avec Dieu. Et c'est pareil pour David là. Donc David s'adresse donc à son Dieu sur la base de son caractère, un Dieu juste, compatissant, puissant, qui fait grâce, qui écoute et qui agit, qui est vivant, avec qui on peut avoir une relation et avec qui il entretient une relation. Et ce Dieu, au début il parle de Dieu, c'est aussi celui qui a passé alliance avec son peuple, qu'il a choisi. Dans les deux premiers versets dont on voit le mot Dieu qui est employé, à partir du verset 4, David va parler de l'Éternel. Et versets 7 et 9, à la fin, il va s'adresser à l'Éternel. C'est le nom choisi par Dieu pour se révéler dans le cadre de l'alliance à son peuple. Quand il s'est révélé à Moïse, il lui a dit, quel est le nom de tu m'envoies, mais quel nom je vais donner aux Israélites ? Dis-leur, je suis celui qui suit, ou je suis, qui aurait été traduit par beaucoup de Bibles françaises, par Second et par d'autres, par le mot l'Éternel. C'est un gars qui s'appelait Olivier Tan qui a trouvé ce mot pour dire je suis. Souvent, c'est l'Éternel dans les Bibles françaises, ou Yahvé dans les Bibles catholiques, ou le Seigneur dans d'autres Bibles. Mais c'est le Dieu de l'Alliance, c'est pas juste Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance, ça va plus loin. C'est celui qui a délivré Israël de multiples fois, qui l'a arraché de l'Égypte pour être son Dieu, pour qu'il soit son peuple. Celui avec qui il a une relation. Et nous, croyants de la nouvelle alliance, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ alors que nous étions ses ennemis. À combien plus forte raison maintenant nous accueillera-t-il lorsque nous nous présentons à lui dans la détresse devant son trône de grâce ? Enfin, dans le verset 4, David, face à ses ennemis, et dans l'adoration au temple, exprime le fait qu'il a été choisi par l'Éternel en tant que roi, qu'il a le soutien de son Dieu. Mais au-delà de David, parce que si on lit l'histoire de David, on sait qu'il est loin d'être parfait, qu'il a eu des moments d'égarement et même des chutes graves, David est comme une préfiguration du seul vrai roi d'Israël, parfaitement fidèle, c'est-à-dire le Messie promis, celui que l'on appellera le fils de David. David a comme une préfiguration. Quand vous voyez des psaumes royaux dans les psaumes, souvent, où David est présent, souvent dans le Nouveau Testament, ça avait été interprété par le fait que Jésus-Christ a pleinement rempli ce qui avait été promis. Hein ? Jésus-Christ, le fils de David, celui dont le Père dira « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Jésus-Christ est celui que le Père va délivrer parfaitement lorsqu'il appellera dans la détresse. Celui auquel Dieu a parfaitement répondu et qui avait une relation parfaite avec son Père. Et nous, vous savez quoi, nous sommes en lui. Nous avons été choisis en lui. Nous avons obtenu la délivrance de nos péchés en lui. Nous obtenons la faveur de Dieu en lui. l'écoute de Dieu en lui, sa compassion, sa délivrance. Nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été arrachés du royaume des ténèbres pour être mis dans le royaume du Fils bien-aimé en lui. Et toutes les bénédictions de la Bible qui sont attribuées à Jésus-Christ nous appartiennent aussi. Nous sommes en lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir le secours lorsque nous en avons besoin. Jésus-Christ est pour nous, Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Regardez ce que dit Éphésiens 3. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il est notre ressource, il est notre provision dans l'épreuve. Et après avoir fait appel à Dieu, David va s'adresser à ceux qui jettent le discrédit sur son honneur. « Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ?» D'autres traductions, hein, « Aimerez-vous la vanité, ce qui est sans valeur, le néant ?» Il y a dans cet appel autant un reproche qu'un appel à la repentance. La voix qu'ils suivent, ceux qui médisent, ceux qui vivent dans le péché, n'est que vent, vanité, mensonge. David, lui, fait appel au Dieu vivant, eux poursuivent une illusion. Le vent et le mensonge font peut-être écho ou allusion à l'idolâtrie, parce que celui qui ne vit pas en relation avec le Dieu vivant va forcément le remplacer par une idole. Il ne faut pas voir les idoles comme des morceaux de bois. L'idole, c'est avant tout intérieur. Le morceau de bois ou de métal a été une représentation. Calvin dit que naturellement, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Donc il y a là un appel à la repentance, comme on a vu les dernières semaines avec les messages sur Esdras. La repentance, ça fait peur, mais c'est une bonne nouvelle. C'est le chemin pour revenir au Dieu vivant. Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Puis il continue, sachez-le, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Donc, l'appel à repentance va aller jusqu'à un appel à se confier en l'Éternel. Alors, il y a deux manières de lire ce passage. Si je me retrouve dans la situation ou la catégorie de celui qui s'est éloigné de l'Éternel, qui a laissé de la place au vent dans sa vie, dont les paroles servent, si on revient au contexte même, à la moquerie, à la médisance, le dénigrement ou toutes sortes de péchés produits par la langue, je suis appelé à réfléchir, puis à me taire et à offrir des sacrifices conformes à la loi, à me confier en l'Éternel, c'est-à-dire pour nous. Jésus-Christ est le sacrifice conforme à la loi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Puis ça peut aller vite des fois. Hein. Ça peut être quelque chose qui s'est encroûté à nous, puis ça peut être quelque chose. Le Seigneur nous appelle à une repentance continuelle. Ça peut être vous êtes au travail, une collègue commence à vous parler d'autres collègues ou de personnes avec qui elle travaille, puis commence à rentrer dans quelque chose de moquerie, puis vous vous rendez compte que vous avez approuvé, vous avez renchéri dessus, vous avez rien dit, puis le Seigneur vous reprend. Est-ce que c'est ça ? Et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le Seigneur nous appelle, je vous dis ça, je l'ai vécu cette semaine. Il y a une collègue qui me parle d'une patiente, et puis tout ce qu'elle disait n'était pas faux, mais ça manquait de compassion, et c'est pas mal dans la moquerie. Et puis d'un coup, j'ai réalisé que je me fais embarquer dedans. Et le Seigneur qui nous reprend. C'est la bonne nouvelle de la repentance. On revient au Seigneur. Et par contre, si je me retrouve du côté de la victime, si je vis une situation difficile où l'on parle de moi, où il y a de la moquerie, de la médisance, de la méchanceté, de la dureté, que ce soit dans le milieu du travail ou n'importe où, je pense au milieu du travail, parce que des fois c'est des milieux rudes, le « jusqu'à quand » adressé à ceux qui médisent, qui se moquent, « jusqu'à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ?» nous rappelle que cette épreuve est dans la main souveraine de Dieu. Elle sera limitée dans le temps. Jusqu'à quand ? Corinthiens 10, 13 nous dit « Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Pendant ce temps d'épreuve, jusqu'à ce que le jusqu'à quand permis par Dieu finisse, c'est le temps d'appeler à l'aide, le temps de la détresse, le temps d'appeler la grâce de Dieu, de se rappeler, comme on l'a vu, que même si les circonstances nous sont défavorables, Dieu est avec nous et nous est favorable en Jésus-Christ. Le temps de se confier en lui plutôt que de céder à la colère. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. C'est une parole que reprend Paul en Éphésiens 4, verset 26. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et ce passage dans Paul, il est entouré d'une exhortation à l'amour et au pardon mutuel et de mise en garde contre les péchés de la langue qui peuvent nous diviser. Et il reprend exactement dans le bon contexte, quoi. Et je crois que les versets 4 et 5, on va les relire. « Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. » Je crois que ces passages 4 et 5 peuvent à la fois se lire comme une continuité du verset 3, c'est-à-dire, je vous dis, il pousse au bout l'appel à la repentance, à la fin on se confie en l'Éternel, et puis aussi comme une mise en garde à la victime de ne pas céder à la colère. Parce que pourquoi ? Parce que l'injustice va produire la colère, mais plutôt à se confier en l'Éternel. Parce que la victime pourrait aussi se retrouver finalement à être assez éloignée de Dieu de par ce qu'il subit, quoi, et à ne pas se confier en Dieu. Mais donc, il est encouragé à se confier en l'Éternel qui est concerné par la situation et qui va la prendre en main. Et il y fait une allusion au soir, au moment du coucher. Ça peut être un moment, on le sait tous, propice à la réflexion, quand l'agitation de la journée ou les activités de la journée cessent. Un moment pour se confier en l'Éternel. On en voit plusieurs exemples dans les psaumes. On peut voir des exemples négatifs, par exemple le psaume 36, versets 4 et 5, où le méchant dit, il est dit du méchant, il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne, il ne veut pas rejeter le mal. Mais on voit que, même là, si c'est pour une mauvaise chose, la nuit est le moment où on va réfléchir. Et il y a des exemples positifs, évidemment. Par exemple, dans le psaume 63, verset 7, « Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. » Donc ça peut être le moment, le soir, où on remet notre journée au Seigneur et où on peut se confier dans le Seigneur avant de plonger dans le sommeil. Et enfin, dans la dernière partie de cette prière, je commence à être asséché un peu. Enfin, dans la dernière partie de cette prière, David se fait l'écho d'une question sur le bonheur. Au verset 7, ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ah, c'est un peu une question universelle que les hommes se sont posées de tout temps et qu'ils ont cherché dans de multiples directions. David va répondre de deux manières. D'abord, dans la manière de formuler sa question, de poser sa question, c'est un qui apparaît. Qui donc nous apportera le bonheur ? David a compris que ce n'est pas qu'est-ce qui nous apportera le bonheur, mais qui. C'est relationnel. Ce n'est pas une voiture neuve, ce n'est pas le dernier smartphone, ce n'est pas un abonnement Netflix qui combleront les besoins de notre cœur. Ça paraît évident, hein, mais dans une société où de consommation, où toutes les publicités veulent nous faire croire le contraire, c'est peut-être pas si évident que ça, des fois. On peut se faire avoir facilement. Je me rappelle avoir écouté un témoignage de sœur Emmanuelle qui revenait de s'occuper de pauvres dans les bidonvilles du Caire et qui avait été frappée et qui en témoignait. Elle disait « Je comprends pas, j'étais dans un bidonville. » Les gens étaient plus souriants qu'en France. Dans l'ensemble, on est quand même s'il y a des gens qui vivent des difficultés, ça n'a rien à voir avec celle des bidonvilles, quoi. Ils disaient en Occident, les gens dépriment. Dans les pays pauvres, ils sont plus souriants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, le bien-être matériel, on ne va pas cracher dessus, mais ce n'est pas ça qui comble, quoi. Qui nous apportera le bonheur ? Il y a un autre piège là-dedans, c'est qui nous apportera le bonheur, comme si le bonheur ne pouvait pas être trouvé en nous-mêmes. Pareil, notre société actuelle nous propose de suivre notre propre cœur. En fait, tout est déjà en nous, il suffit de libérer le petit enfant qui est en soi et de suivre les désirs de son cœur qui sont forcément merveilleux. Moi, je caricature un peu, mais dans certains discours, ça se retrouve, ça. La Bible nous dit que le bonheur se trouvera dans une relation et pas en nous-mêmes. La question que pose le psalmiste nous oriente déjà. C'est dans une relation, et pas dans des conditions de vie, et pas en soi-même qu'on va trouver le bonheur. Notre part, ce sera d'accueillir cette relation, d'y donner la place qui lui revient. Et suite à la question, David répond immédiatement par une invocation de l'Éternel. Qui nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, directement. Porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Il va à la source ultime du bonheur. Ça ne veut pas dire que les autres relations, les relations familiales, les relations d'amitié, un mariage, tout ça, ne font pas partie des dons de Dieu. Mais il y a un ordre dans les amours. Elles trouveront le plein épanouissement s'ils viennent en second, après la première relation, qui est celle du Seigneur. Sinon, la deuxième relation, qui doit venir en deuxième, va devenir ce à quoi nous attendons que ça va combler notre cœur, et ça va redevenir une forme d'idolâtrie subtile. Le vrai bonheur se trouve dans le Seigneur. Que notre vie en soit illuminée. Tout dépend de son Dieu, chez David. Il en est conscient. Et si on remonte au verset précédent, le verset 6, on va le relire. « Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui s'attache à lui. » Non, excusez-moi. « Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. » Donc si on remonte au verset suivant, avant même de poser la question et de commencer à y répondre, David avait déjà donné un préalable. Le point de départ de toute réflexion et expérience sur le bonheur, c'est « Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. » Ça commence par une confiance en l'Éternel. Quand des hommes de loi, je crois que c'est des hommes de loi, vont poser à Jésus la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu ?» En Jean 6, il va leur répondre « La volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Ça commence par une relation avec Jésus-Christ. Et dans le cadre de cette confiance, cette relation d'alliance, David et nous avec Jésus-Christ, c'est que le bonheur, on va revenir à David, David sait que le bonheur d'Israël dépend de l'Éternel. Et David, qui est un homme qui a médité les Écritures, les rois étaient censés avoir une copie des Écritures chez eux. Il s'appuie sur les promesses de l'Alliance pour formuler sa prière. Sa demande, ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Et bien, elle s'appuie sur une prière de bénédiction pour le peuple d'Israël que l'on retrouve en Nombre 6, 22 à 27. Je vais vous la lire. L'Éternel parla à Moïse, dans ses nombres 6, et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi l'Israélite, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. » C'est à peu près ce que dit David dans le psaume. Selon les traductions, les mots changent. « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. » David demande, « Ô Éternel, porte sous nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne sa paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Donc David s'appuie sur les promesses de la bénédiction pour lui-même redemander ce que Dieu a promis dans le cadre de l'Alliance. Pour nous, c'est toutes les promesses qui se trouvent en Jésus-Christ. Et il connaît ses promesses et le caractère de son Dieu, un Dieu qui aime bénir son peuple. Il les a méditées dans les Écritures. Ça va être pareil pour nous. Méditons les Écritures et nous verrons le caractère de Dieu. Relisez les Évangiles, regardez le caractère de Jésus, c'est le caractère de Dieu. Et enfin, dans les deux derniers versets, David témoigne de ce qu'il a expérimenté des promesses de l'Écriture, les bénédictions de l'Alliance. On va les relire. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, sœur et l'Éternel, je demeure en sécurité. Ce sont les mots de quelqu'un qui a expérimenté la joie et la paix du Seigneur au sein des difficultés. Les promesses de l'Alliance ne sont pas restées écrites sur un manuscrit. Le Seigneur les a aussi écrites dans son cœur au milieu des épreuves. Tu, il s'adresse à Dieu, mais dans mon cœur. On voit qu'il y a une relation intime de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leur moisson abonde. Ce n'est pas juste « bon, cette année on a eu une moisson, on s'en sortira ». Quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule, donc c'est le top. Dans une civilisation, dans une société essentiellement agricole, la moisson d'une récolte, c'était l'aboutissement du travail de toute une année, l'aboutissement d'une année d'espérance. En fait, une bonne moisson, c'est l'assurance de vivre, de pouvoir se nourrir. Ils n'allaient pas aller au supermarché si la moisson avait foiré. C'était très important. C'est dans un moment de réjouissance important. Et même les fêtes d'Israël étaient souvent en relation avec le calendrier agricole. Et dans tout le monde antique, les moissons étaient synonymes de vie, de joie, c'est quelque chose de primordial. Mais là, David affirme qu'il existe une joie encore plus profonde, plus importante et non liée aux circonstances, et qu'elle est un don de l'Éternel, qu'elle vient de lui, du donateur lui-même, qu'elle se trouve dans une communion avec celui qui donne. Tu mets dans mon cœur de la joie. Au verset 9, il affirme aussi qu'il a expérimenté la paix et la sécurité promise par la bénédiction de l'Alliance grâce à Dieu seul. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité, au-delà des circonstances. Donc David, après avoir débuté son psaume dans les appels au secours et la détresse, le termine sur une affirmation de la joie, la paix, la sécurité qui ne peuvent se trouver qu'en l'Éternel. Mais il a eu besoin de se confier, de confier sa détresse au Seigneur, de la crier même. Et la fin positive ne dit pas forcément que les circonstances sont toutes arrangées, que son chemin s'est aplani, mais qu'il est possible de trouver au milieu des épreuves une source de joie, de réconfort, de paix, de sécurité à la personne du Seigneur, de l'Éternel, de celui qui sauve. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ton esprit qui la rend vivante dans nos cœurs et pour le témoignage de ces psaumes, Seigneur. Tu nous assures dans ta parole que tu es pour nous une source d'eau vive qui coule quelles que soient les circonstances et où nous pouvons trouver ta joie, ta paix, ta sécurité. Apprends-nous comme David à l'expérimenter de plus en plus et à en témoigner autour de nous comme David l'a fait au travers de ce psaume. Merci pour Jésus, merci pour sa vie en nous et pour la provision qui est au milieu de nos épreuves. En ton précieux nom, amen.
Merci Christophe de l'explication de ce psaume. Merci beaucoup.